Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, dans la première partie de notre émission, nous continuons notre série sur le psaume 23. Didier sera de retour pour en discuter en compagnie de Yann. Ensuite, pour notre courte méditation biblique, nous reviendrons sur la première lettre de Jean et Claude nous fera part de ses réflexions.
Avant d'accueillir Didier, Sandre va nous lire le psaume 23. Cédons-lui tout de suite la parole.
Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table. Aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai.
Merci. Didier, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann, et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons appris que ce psaume a été écrit par David, le deuxième roi d'Israël. Toutefois, avant de devenir roi, David a exercé le métier de berger. C'est pourquoi il utilise cette profession comme image pour décrire sa relation avec Dieu. Une relation de dépendance et de confiance. Nous avons aussi appris que dans l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le bon berger. Il est Dieu avec nous. Ainsi, le psaume 23 peut aussi nous éclairer sur la nature de notre relation avec Jésus, notre berger par excellence.
Merci Didier pour ce bref résumé. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la deuxième phrase du psaume « Je ne manquerai de rien ». Ces paroles peuvent nous surprendre et nous interpeller, car beaucoup de nos auditeurs, y compris celles et ceux qui croient en Jésus, peuvent vivre dans le besoin. Certains manquent de suffisamment d'argent pour pouvoir se loger correctement, ou pour payer les frais scolaires ou les factures de soins médicaux. D'autres manquent de quoi se nourrir suffisamment. D'autres vivent avec un manque affectif et émotionnel grave. Dans un contexte où la souffrance est si présente dans notre monde, comment comprendre David lorsqu'il déclare « Je ne manquerai de rien » ?
Oui, Yann, ce sont des questions importantes. Je vais essayer d'apporter quelques pistes de réflexion. D'abord, je voudrais souligner que David lui-même n'a pas connu une vie facile. Il n'est donc pas quelqu'un qui ignore ce qu'est la souffrance. Avant de devenir roi, sa vie a été menacée par le roi précédent, Saül. David a dû chercher refuge dans le désert. Là, il a connu des privations et l'insécurité. Nous n'avons pas le temps d'énumérer toutes les épreuves que David a rencontrées tout au long de sa vie, mais nous pouvons affirmer qu'il était un homme familier de la souffrance. Puis, une deuxième remarque. Le psaume 23 lui-même ne présente pas la vie en rose. Dans le verset 4, David évoque la vallée sombre, où règnent les ténèbres de la mort. Ce psaume reconnaît donc l'existence du mal et du malheur, et que le croyant vit dans ce contexte-là. Dans un monde où règnent les ténèbres de l'injustice, de l'oppression et de l'insécurité, le croyant va forcément souffrir de manque, être privé de certaines choses sur le plan matériel, physique ou affectif. Enfin, une troisième remarque. Les psaumes sont des poèmes, et on ne lit ni n'interprète un poème de façon très littérale. Souvent, les poètes utilisent un langage imagé et exagéré pour nous orienter vers un sens qui, lui, n'est pas forcément littéral.
Merci Didier. À la lumière de ces remarques importantes, comment devons-nous comprendre donc les paroles « Je ne manquerai de rien » ?
Je propose de traduire les paroles de David ainsi. « Puisque l'Éternel est mon berger, je suis en possession de ce qui est l'essentiel. Si Jésus est mon berger, j'ai ce qu'il y a de plus précieux. Il est celui dont je me contente. Il est ma satisfaction, ma sécurité. Je n'ai nullement besoin de chercher ailleurs ce qu'il y a de mieux. Savoir que l'Éternel est notre berger devrait combler nos cœurs et nous aider à mieux supporter les douleurs suscitées par ce dont nous manquons. Une personne pauvre, avec toutes les difficultés que cela représente, si elle a l'Éternel comme berger, est en fait plus riche qu'un milliardaire non-croyant. Car avoir l'Éternel pour berger est un bien incomparable. Ceci dit, je voudrais souligner que l'Éternel, notre berger, n'est pas indifférent à nos privations et à nos manques. Le psaume 23 atteste qu'il est présent avec chacun d'entre nous, quelles que soient nos circonstances, et particulièrement dans les situations les plus sombres. De plus, parce qu'il est notre berger, l'Éternel peut aussi venir à notre secours. De diverses manières, il nous prouve son amour fidèle et il pourvoit à nos besoins. L'Éternel est bon et bienveillant. Cependant, nous ne pouvons pas lire ses paroles « Je ne manquerai de rien » et supposer qu'il s'agit là d'une promesse universelle, de prospérité et d'une vie sans aucun souci.
Merci Didier. Nous reviendrons sur ces questions lors de nos prochaines émissions. Pour finir, j'ai une dernière question à vous poser. Nous avons affirmé qu'à la lumière du Nouveau Testament, nous savons que Jésus est notre berger. A-t-il alors dit quelque chose qui pourrait nous éclairer sur le sens de ses paroles « Je ne manquerai de rien »
Selon l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 10, Jésus déclare « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Je suis le bon berger. Nous pouvons nous demander ce que représente cette vie abondante. Et beaucoup pensent à la prospérité matérielle, aux richesses et aux biens dont certains manquent cruellement. Cependant, plus tard, Jésus nous oriente vers un tout autre sens de la vie abondante. C'est un sens qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Selon le chapitre 17 de l'évangile de Jean, au verset 3, Jésus annonce « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » J'en déduis que la vraie vie, la meilleure des vies, est celle qui consiste à connaître Dieu, qui, en Jésus, est présent à nos côtés, en tant que notre berger. Même les plus démunis peuvent connaître cette abondance spirituelle, qui consiste à jouir de la grâce de Dieu, à vivre d'une relation personnelle avec Jésus, à marcher jour après jour sur les traces de celui qui est bon et bienveillant.
Merci Didier pour ces paroles encourageantes. Nous vous retrouverons bientôt pour parler de la suite de ce psaume.
Merci Yann, et au revoir à tous.
Merci Didier. À présent, le moment est venu de passer à notre courte méditation biblique. Nous revenons sur les écrits de l'apôtre Jean. Dans quelques instants, Claude nous fera part de ses réflexions. Mais avant de lui céder la parole, Sandra va nous lire un extrait de 1 Jean, au chapitre 4, les versets 4 à 6.
Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu, et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur.
Merci et bonjour à tous. Souvenez-vous que l'apôtre Jean écrit à des chrétiens troublés par les dires de faux enseignants ou de faux prophètes. Dans un tel contexte, Jean cherche à affermir leur foi. Il cherche aussi à les aider à discerner le vrai chrétien de celui qui ne l'est pas, à reconnaître le vrai prophète de l'imposteur. Malheureusement, nous vivons à une époque où le soi-disant prophète et enseignant se multiplient. Leurs idées sont parfois farfelues, mais souvent attrayantes, séduisantes et plausibles. Que faire lorsque nous sommes exposés à de nouvelles doctrines concernant Jésus ou la foi chrétienne ? Selon Jean, nous apprenons à distinguer la vraie doctrine de la fausse dans la mesure où nous apprenons à écouter Dieu. Écouter Dieu ? Cela soulève une question importante, car il ne nous parle pas d'une voix audible venant du ciel. Comment écouter Dieu ? Jean nous donne la démarche à suivre. Il faut prêter attention à ce qu'ont écrit les premiers apôtres, les témoins de la croix et de la résurrection de Jésus. Ces apôtres ont contribué à la rédaction des quatre évangiles qui nous relatent des éléments importants de la vie de l'enseignement de Jésus. Ces apôtres ont également écrit des lettres pour expliquer la foi aux premiers croyants, pour les aider à vivre à la lumière de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons donc lire ces écrits aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ils sont vrais et fiables, et nous devons examiner tout ce que disent les soi-disant prophètes, apôtres et enseignants qui parcourent nos pays pour voir s'ils sont fidèles à l'enseignement du Nouveau Testament. De plus, comme le souligne l'apôtre Jean, les faux enseignants emploient souvent un langage du monde, ce qui les rend d'autant plus attrayants et populaires. Leurs enseignements cherchent souvent à plaire, alors que le Nouveau Testament nous appelle à la repentance et se soucie davantage de produire en nous une véritable transformation de cœur. S'il est vrai que les faux prophètes peuvent semer la confusion, Jean cherche surtout à rassurer les chrétiens troublés. Le vrai croyant appartient à Dieu, et ce Dieu est le Tout-Puissant. Jean précise que c'est l'esprit de mensonge qui est Satan qui forme les faux enseignants et les faux prophètes. Dès le début de la Bible, Satan sème des mensonges afin d'écarter les hommes et les femmes du vrai Dieu. Si de tout temps il a envoyé des faux prophètes, c'est justement pour induire les gens en erreur et les empêcher de jouir des réelles bénédictions que l'on trouve en Christ. Cependant, soyez rassurés, Dieu est plus fort que le diable et la vérité l'emportera face aux mensonges. Dieu est tout-puissant et il est capable de défendre et de garder celles et ceux qui lui appartiennent. La Bible est digne de confiance, car Dieu a inspiré ses auteurs. Leurs paroles sont les paroles de l'Esprit de vérité. Faisons donc confiance aux écrits contenus dans la Bible, car en restant fidèles à son enseignement, nous savons que Dieu nous gardera sur le bon chemin et qu'il veillera sur nous.
Merci Claude. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour la suite de nos deux séries d'espérance aujourd'hui. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.